Bonjour tout le monde, un très bon début de semaine à vous tous. C'est le dernier droit avant le temps des fêtes qui commence et on parle déjà de reconfinement. Un reconfinement qui serait, à l'instar de celui de l'Allemagne, partiel, mais quand même pas mal plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce sera annoncé, confirmé en tous les cas, demain. Fin de journée, le premier ministre François Legault va revenir là, sur ce plan. En même temps, ben, il y a déjà beaucoup de gens qui ont été tenus au courant de certaines rumeurs et qui se préparent. Évidemment, pour tout le commerce de détail, quand on parle de reconfinement, quand on parle de fermer tout ce qui n'est pas magasin et services essentiels, ça veut dire beaucoup de choses pour les Allemands, entre autres, qui ont réagi. Puis on aura l'occasion de parler à quelqu'un tout à l'heure directement en Allemagne. C'est vraiment un coup de massue que de se faire fermer. Et on va tout de suite rejoindre le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin. Bonjour, M. Drouin.
Bonjour, Isabelle.
J'ai envie de vous faire réentendre la clip de François Legault là-dessus et avoir votre réaction tout de suite après.
Il faut comprendre qu'il y a une opportunité. La construction s'est fermée pour 2 semaines dans le temps des fêtes. Les écoles sont fermées pour à peu près 2 semaines. Beaucoup d'entreprises sont fermées pour au moins 1 semaine. Bon, restent les magasins. Est-ce qu'on doit fermer les magasins pendant un certain temps? C'est là qu'on garde les choses.
Évidemment, François Legault, vous l'avez entendu, M. Drouin pose la question. C'est là qu'il regarde les choses. On a un peu l'impression quand même que la décision est prise. Et d'après la rumeur, ce serait à partir de ce jeudi là, que les magasins seraient fermés, ce qui nous laisserait donc 7 jours avant le 24. Quelle est votre réaction par rapport à ce plan de Québec?
Ben écoutez, on n'a pas de confirmation de rien pour l'instant. Ça fait qu'on est dans la spéculation. Je sais qu'au gouvernement, ça discute encore beaucoup pour trouver le meilleur équilibre entre l'enjeu de santé publique qu'on vit présentement et au niveau au nombre de cas qu'on est rendu. Je comprends que c'est inquiétant, mais aussi le soutien de l'économie. Le commerce de détail a quand même prouvé qu'ils sont pas une source de cas, ils sont pas une origine de cas. Donc la possibilité pour les commerçants de pouvoir étirer jusqu'au fait et de capitaliser sur le maximum de ventes avant Noël, ben pour plusieurs, c'est même une question de survie, là.
Ouais, j'imagine que vous êtes en lien, Stéphane Drouin, comme vous êtes directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, vous devez être en lien régulièrement avec le gouvernement, vous devez essayer de passer votre message. Votre message, ça serait laissez-nous ouverts, M. Drouin? Ça serait quoi?
Ben effectivement, si on pouvait rester ouvert jusqu'à la période des fêtes, jusqu'à la fin de jusqu'aux fêtes le 24, parce que pour plusieurs commerçants, ça donnerait le petit coup qu'ils ont besoin pour être capable au moins de se garder la tête au-dessus de l'eau. On se rappelle que janvier, février, mars, bon, une fois les liquidations d'après les fêtes passées, pour plusieurs commerçants, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, ça demande encore des liquidités, de l'argent pour être capable de passer au travers de cette autre période-là. Ça fait que c'est vraiment un beau défi pour les commerçants là, d'avance. Donc, de rester ouvert le plus longtemps possible, effectivement, c'est la priorité.
Oui, mais mettons là, que ça soit effectivement comme la rumeur semble le dire. Mettons là, que ça soit effectivement une fermeture à partir de jeudi. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour les détaillants québécois?
Bien, pour plusieurs. Hein, vous savez, il y a certains secteurs qui ont quand même bien été là, depuis la pandémie, mais il y a des secteurs comme la mode, entre autres, qui ont été très affectés, certains commerces de proximité. Donc, je vous dirais, autant là, cette période-là est une période année après année où c'est une bonne année ou une moins bonne année. Là, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Cette année, pour plusieurs, ça pourrait être sa passe ou sa casse. C'est qu'on est très inquiet au retour de janvier-février, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le secteur avec plusieurs fermetures.
On a eu des chiffres pour les restaurateurs, d'ailleurs, Stéphane Drouin. Pour les restaurateurs, on parle de 10 000 restaurateurs au Canada là, qui seraient en mauvaise posture, qui auraient fermé. On dit qu'il y en aurait là-dessus peut-être 3 000 au Québec. Est-ce que vous avez des chiffres équivalents qui nous permettent là, de voir un peu quelle est la situation dans le commerce de détail?
On n'a pas vraiment de données qui ont sorti présentement, mais ce qu'on sent, c'est que la plupart des commerçants ont réussi malgré tout là, à passer à travers la fermeture, l'ouverture, la rentrée scolaire, là, la période d'automne, et tout le monde voulait se rendre au moins jusqu'aux fêtes, justement, pour être capable de passer au travers, et c'est ça, je dis, on n'a pas de données. Je pense pas que c'est le cataclysme est arrivé comme ça peut être le cas dans la restauration pour l'instant, mais c'est certain qu'après les fêtes, par contre, on pourrait voir vraiment des vagues de fermeture.
Oui. Sauf que là, bon, puis surtout si du 17 au 24, d'habitude, le 17 au 24, là, c'est là où tous les retardataires vont se lancer dans une course effrénée pour aller chercher les derniers cadeaux. C'est une semaine, probablement, une des plus importantes dans votre année, là, cette semaine qui précède Noël.
Mais normalement, oui, on voudrait que cette année, on l'a vu, les consommateurs ont commencé à magasiner beaucoup plus tôt, hein, à la date du 1er décembre, selon nos études, là, les gens avaient complété environ 50% de leurs achats de cadeaux des fêtes. Donc, on espère que dans les dernières semaines, les gens ont pu en faire davantage. Et je vous dirais que le danger qui guette avec l'annonce, c'est aussi la ruée vers les commerces. Et là, avec les contraintes de nombre de clients, ça risque de rendre les choses très compliquées pour les commerçants. Et on espère juste que si les gens se ruent vers les commerces, bien, idéalement, qu'ils priorisent les commerçants québécois.
Oui. Et pendant ce temps-là, bien, évidemment, on parle de fermer tout ce qui n'est pas essentiel. Ça voudrait dire que, comme pendant le confinement du mois de mars, on garderait ouvert tout ce qui est, par exemple, grande surface, épicerie, pharmacie. Ça veut dire qu'il y aurait encore des commerces, les fameux là, qu'on a beaucoup nommés, les Walmart, les Costco, seraient tout de même ouverts. Est-ce que vous allez faire valoir au gouvernement cette... Il y en a qui parlent d'iniquité. J'ai parlé à beaucoup de monde au cours des derniers mois. Puis il y en a qui disent que c'est inéquitable que des grandes surfaces qui vendent des téléviseurs et d'autres bébelles, pas juste la bouffe, soient ouvertes alors que nous, on nous force à fermer. Comment vous voyez ça là, cette fois-ci?
Bien, effectivement, on a fait plusieurs représentations. Je pense que le gouvernement est très sensible à la situation là, qui a eu lieu au printemps dernier. Je pense qu'ils ont quand même une sensibilité de pas reproduire ça. J'ai hâte de voir comment ça va se produire. Vous savez, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit de façon imposée ou de façon volontaire que les grandes surfaces se limitent aux catégories de produits essentiels qui seront mis en vente, donc l'épicerie, la pharmacie. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème, mais c'est lorsque ça devient inéquitable, lorsque eux deviennent un centre de vente de tout, alors que les autres commerçants en face de la rue est fermé. Alors là, c'est vraiment, vraiment déplorable que ça se passe et on souhaite effectivement que ce ne soit pas le cas là, pour la période de fermeture qui s'en vient.
Mais est-ce qu'on a appris du premier confinement pour gérer l'industrie du détail?
Écoutez, il s'est fait des choses dans d'autres provinces à travers le Canada. Il y a eu justement de fermeture des sections dans les commerces. Il y a des endroits où les commerces non essentiels étaient fermés. Alors, on espère que le gouvernement s'en est inspiré pour permettre justement d'avoir une meilleure équité puis de protéger notre commerce de détail québécois à travers ça, justement. C'est l'idée en arrière de ça. C'est pas de pénaliser personne, mais c'est de protéger les commerçants québécois qui veulent juste continuer de faire des affaires puis d'opérer leur métier.
Est-ce que vous pensez qu'on devrait permettre, par exemple, aux commerces qui ont une porte qui donne sur l'extérieur de rester ouverts, ceux-là, comme on l'a pu le voir à un moment donné, là, au cours des derniers mois?
Écoutez, c'est dur à dire. On n'est pas un expert en santé publique. Hein. Ça fait qu'on va faire attention à comment on se prononce, mais ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement mette des mesures qui soient équitables. Puis si ça impose la fermeture des commerces pour une courte période après les fêtes, bien, je pense que les commerçants vont faire leur part comme ils ont fait depuis le début. Je dirais la grande inquiétude est probablement que s'il y a une fermeture, c'est que la date de fermeture soit un peu malléable et soit un peu décalée dans le temps au fur et à mesure. Là. Puis là, c'est probablement ce qui est le plus inquiétant. Si on annonçait une fermeture jusqu'au 4 janvier ou quelque part au début janvier, bien, les commerçants vont préparer leur vente de liquidation qu'ils font normalement tout de suite après Noël. Mais si la fermeture venait à se décaler d'une semaine, d'une autre semaine, c'est là que ça deviendrait vraiment difficile parce que les liquidités, l'argent que les détaillants font là, après les fêtes est très important pour les mois qui suivent là, jusqu'au printemps. Là. Donc, c'est vraiment une des grosses inquiétudes que les commerçants ont dedans.
Oui, c'est ça. Puis après, ça, combien de temps va durer ce reconfinement? Là?
Exactement. C'est là que l'insécurité rentre en ligne de compte. Puis on comprend que d'un autre côté, que c'est un enjeu de santé publique, mais d'un autre côté, il y a un enjeu de santé économique aussi. Donc, on espère que les décisions qui seront prises vont être aussi en compte de cet équilibre-là qui doit être très, très, très mince à trouver.
Stéphane Drouin, quand les détaillants de vos membres vous appellent au Conseil québécois du commerce de détail puis qu'ils vous disent « Coudon, là, je ferme-tu le 24, moi, là, ou je ferme-tu le 17 cette semaine? Est-ce que je peux avoir un Boxing Day quand même? » Qu'est-ce que vous répondez?
Ben, écoutez, on travaille vraiment pour amener leur voix le plus possible au gouvernement et c'est certain qu'il y a des différents enjeux. Oui, il y a la fermeture, mais il y a tout aussi la main-d'œuvre. Vous savez, le commerce de détail, c'est un gros employeur. Donc, la gestion de cette main-d'œuvre-là aussi, de faire toutes les les mises à pied temporaires de leur personnel. C'est très complexe, ça demande du temps, puis on va rendre en période des fêtes aussi, de mettre à pied des gens à la veille de la période des fêtes, c'est pas non plus très drôle, les employés. Alors c'est tout ça qui les insécurise beaucoup, hein. Les commerçants sont très paternalistes et maternalistes dans leur gestion, donc ils ont bien à cœur leur main-d'œuvre et ça fait aussi partie de l'équation là, dans leurs inquiétudes.
Mais vous vous alignez pour le 17, fermeture le 17? Entre vous et moi, là, Stéphane.
Si j'avais un scoop, je vous le dirais pas, mais j'en ai pas. Alors,
je pense qu'on a tous eu des appels de gens bien placés là, pour nous confirmer que ça s'en allait vers ça, non?
Ben moi, ce que la pandémie m'a appris à date au niveau des annonces, c'est que la seule annonce que je sais, c'est celle qui va être faite, parce qu'entre les deux, entre aujourd'hui et demain, il peut se passer bien des choses.
C'est vrai aussi. Merci beaucoup et on se reparlera certainement d'ici la fin de la semaine.
Avec grand plaisir. Bonne
Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. On va parler à Benoît, tiens, auditeur, tout de suite. Beaucoup de gens là qui réagissent, je peux vous le dire. Beaucoup de gens m'écrivent à isabelle@985fm.ca. Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 et de l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Oui, moi, si le gouvernement annonce demain qu'il ferme tous les magasins non essentiels, pour moi, j'entends qu'il ferme le Walmart. Parce que le Walmart n'est pas une épicerie. Une épicerie vend de la bière, du vin, puis Walmart n'ont pas le droit de vendre de la bière et du vin parce que leur superficie alimentaire n'est pas assez grande comparativement aux non-alimentaires. Donc, ils ne devraient pas avoir le droit d'ouvrir, comme les épiceries normales.
Merci, Benoît. Mike, bonjour.
Bonjour, Isabelle. C'est la première fois que j'appelle. J'étais en Galerie d'Anjou, la fin de semaine. Après moi, c'est mieux que ferme les magasins.
Galerie d'Anjou, ça?
Oui, Galerie d'Anjou, oui, c'est bien ça. Ils ne respectent pas les 2 mètres. L'inspecteur et les sécurités ne sont pas là, ils s'en foutent. Le monde là-dedans que tu peux pas imaginer. Il y a l'équipeur que la porte est ouverte extérieure, mais fermée intérieure. Mais le sport expire, il ouvre les 2 portes à côté. Mm-hmm. Ça, là, c'est mieux qu'en ferme.
Ouais, donc vous êtes d'accord avec le fait de fermer, puis dès ce jeudi, Mike?
Oui, c'est bien ça, c'est mieux, Isabelle. Regarde, le COVID, là, ça monte, puis ça monte. Puis si ça ne ferme pas ça, ça va être plus payé.
Merci, Mike. On va aller à la pause là-dessus. On va aller en Allemagne, pardon, tout de suite après, voir un peu comment ça va s'organiser là-bas. Parce que ça semble que ça va être notre modèle pour nous cette semaine. En tout cas, François Legault nous l'a bien dit. C'est un peu sur le modèle allemand là, qu'ils vont se baser, puisqu'il le disait à mon collègue Paul Arcand ce matin. Il regarde les résultats et François Legault disait l'Allemagne a mieux fait qu'à peu près tous les pays dans le monde là-dessus. Fait que c'est un beau modèle à suivre. Vous m'appelez bien sûr là-dessus. À tout de suite. Tout le monde. Mais c'est demain qu'on saura quelles seront ces mesures sanitaires supplémentaires. Déjà, on parle d'un reconfinement partiel un peu à la lumière là, de ce qu'on a su qui allait se passer en Allemagne. Et voici ce qu'en dit justement François Legault.
Moi, je suis un grand admirateur de Mme Merkel, Angela Merkel. Si vous allez voir ce que Mme Merkel a annoncé en fin de semaine, là, ben c'est l'Allemagne qui s'en est mieux sortie depuis le début de la pandémie. Donc, ça va à peine d'écouter le docteur Ouda, ça va à peine d'écouter Mme Merkel aussi. Donc, si vous regardez ce que Mme Merkel a annoncé, ça risque de ressembler à ce qu'on va annoncer demain.
Alors, ça nous donne une bonne idée. Regardez ce qui se fait en Allemagne. Allons-y, tiens, en Allemagne, rejoindre notre collègue Olivia Lévy, qui est journaliste. Elle habite à Francfort depuis septembre 2019. Bonjour, Olivia.
Bonjour.
Je suis contente de te parler. Je voyais sur ton Facebook en fin de semaine que tu nous dressais les grandes lignes justement de ce que vous allez vivre. Là, ça va être à partir donc de mercredi. Raconte-nous un peu ce qui va se passer chez vous là.
Ben écoutez, Isabelle, comme dit François Legault, il n'a pas tort. C'est bien d'écouter notre chancelière Angela Merkel, qui c'est vrai depuis le début de la pandémie s'en est le mieux sortie, en tout cas. En Europe. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de mercredi, donc 16 décembre jusqu'au 10 janvier, dans tout le pays, donc dans toute l'Allemagne, seuls les magasins d'alimentation et les pharmacies et quincailleries seront ouvertes. Donc, elle a vraiment annoncé que tous les commerces non essentiels dès demain soir et aussi toutes les écoles et les garderies et les coiffeurs également seront donc fermés. À savoir que déjà, comme vous, les restaurants, les bars, les cinémas, les musées, les salles de sport sont déjà aussi fermés depuis le 1er novembre. Donc, elle a vraiment annoncé un durcissement des mesures pour faire face ici vraiment au rebond de l'épidémie, puisque l'Allemagne a atteint hier 30 000 infections en une journée et près de 600 morts, ce qui est un record au quotidien. Et comme la chancelière est très pragmatique depuis le début, elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais, dans le sens où, bon, les écoles, de toute façon, vont être fermées parce que c'est les vacances de Noël. Donc, on va juste les prolonger un petit peu de quelques jours. Certains pourront faire l'école à la maison, c'est au choix. Et donc, vraiment, c'est se dire, c'est, de toute façon, c'est un moment où beaucoup de gens sont aussi en vacances parce que les enfants sont en vacances, donc certains bureaux ferment, beaucoup de gens sont en congé. Donc, c'est le meilleur moment pour vraiment confiner, finalement. Donc, vraiment, parce que sinon, l'hiver va être, il est déjà long, mais là, il va être encore plus long, là.
Oui, effectivement. Donc, tu dis magasins d'alimentation, pharmacie, quincaillerie, c'est ça, vont rester ouvertes parce qu'elles sont considérées comme des essentiels. Est-ce que vous avez l'équivalent, Olivia, de Costco ou de Walmart en Allemagne?
Il y en a, mais la folie n'est pas tout aussi grande qu'à Montréal, enfin, qu'au Québec. Il y a une chaîne qui s'appelle Métro, qui n'a rien à voir avec le métro qu'on a au Québec, qui est un peu semblable. Mais j'allais dire, l'engouement est moins grand, disons, qu'au Québec. Donc oui, il y a des files d'attente. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je suis sortie un peu parce que, bon, j'avais quelques derniers achats à faire. Moi, je suis pas très disciplinée. C'est un peu la cohue, c'est vrai, mais quand même, on gardait encore nos distances, nos masques obligatoires partout à Francfort. Mais parce que tout ferme demain soir. Donc là, les derniers achats... même si moi, c'est le Père Noël qui passe, là, j'ai un fils qui croit encore au Père Noël, donc il fallait vraiment que je fasse mes derniers achats là, donc aujourd'hui. Donc,
comment réagissent les Allemands, tu dirais? Ils sont quand même... Est-ce que tu dirais, toi qui vis là-bas depuis plus d'un an, est-ce que tu dirais que les Allemands sont plus disciplinés que les Québécois? C'est un peu légendaire, mais est-ce que c'est vrai de ce que tu as pu voir, toi, là, de ton expérience allemande?
Je sais pas. C'est vraiment... Ça dépend. Comme un truc qui est très populaire ici, et là, tu vas rire, et moi aussi, je ris, mais bon, c'est pas drôle parce que ça a été la source de contamination, c'est qu'ici, on a le droit de boire de l'alcool dehors. C'est-à-dire que, comme les marchés de Noël étaient fermés, on a pu quand même créer des petits kiosques à Glühwein. Donc, le Glühwein, c'est le vin chaud. Et ça, finalement, c'était pas une bonne idée. Parce qu'après un ou deux ou trois verres de Glühwein, il fait quand même 0 degré ici.
Il n'y a pas juste le vin qui est chaud, c'est ça?
Ben, c'est ça. Donc, là, finalement, l'allemand chaud, on sait ce que ça donne. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, évidemment, là aussi, là, on ferme tous les kiosques de vin chaud, c'est terminé. Mais ça, c'est vraiment une caractéristique allemande. Même en dehors de Noël, on boit dès le midi, le week-end, un petit vin blanc dehors. Avec des amis, avec la famille. Et donc, ça, c'était pas une bonne idée. Les restaurants sont fermés, évidemment, depuis le 1er novembre. Donc, oui, ils sont disciplinés, mais alors après, ça dépend où. Il y a certaines régions en Allemagne de l'Est où l'extrême droite a gagné des points aux dernières élections. Eh bien là, le taux de contamination est énorme. Et donc, d'ailleurs, eux, cette région-là, en Saxe, a un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Donc là aussi, l'Allemagne est divisée en 16 Länder, en 16 régions. Même si ce qu'a annoncé Angela Merkel, c'est pour tout le pays, il reste que là où il y a plus de contamination, il y a des restrictions encore plus dures.
Comme un couvre-feu, c'est ça. Ça, il n'y a jamais été question de couvre-feu chez nous, remarque.
Ici non plus, en tout cas, pour ce qui est Francfort, mais en Allemagne de l'Est, où on pense qu'encore le coronavirus est peut-être une conspiration, là, il y a un couvre-feu parce que comme partout au pays, là, même si l'Allemagne a un système de santé extrêmement performant en Europe, ben là aussi, il arrive à saturation.
Oui, parle-moi des coiffeurs parce que chez nous, ça a fait beaucoup réagir. D'ailleurs, on va leur parler tout de suite après toi, l'Association Coiffure Québec. Là, chez vous, là, les coiffeurs donc ne pourront plus être ouverts non plus, hein?
Non. Ils vont fermer à partir donc de demain soir. Ouais. Ben, je me suis promenée aujourd'hui, tout le monde s'y attendait. Je veux dire, on voyait les chiffres qui étaient vraiment pas bons. Le nombre de contaminations qui ne cessait d'augmenter jour après jour et des décès. Ils s'y attendaient. Alors, cela dit, ici, je ne vais pas vous oublier dans les chiffres, mais il y a quand même des très bonnes compensations de l'État. Mm-hmm. Angela Merkel est très généreuse en compensation financière. Donc, peut-être qu'il y a moins de grogne. Mais il y a quand même une grogne parce qu'on pensait, disons, que le confinement allait commencer le 20 décembre. On pensait gagner quelques jours. Là, on a été pris par surprise en disant non, il vous reste 2 jours. Là, c'est hier que ça a été annoncé. Il vous reste 2 jours pour tout faire. Après, c'est fini, on reste à la maison. Donc oui, ils sont. Les commerces aussi, ils pensaient avoir encore quelques jours supplémentaires. Tout le monde s'y attendait, mais on pensait peut-être arriver jusqu'au 20 décembre. On parlait, les rumeurs donnaient la fermeture le 20 décembre. Bon, elle a été devancée parce que justement, il faut donner un répit aux hôpitaux on va bientôt manquer de lits en réanimation, donc on veut pas en arriver là, donc on prend les mesures tout de suite pour ne pas en arriver là.
Ouais, de ton côté, t'es résigné, tu dis tout le monde s'y attendait, donc toi aussi, tu t'étais préparé en conséquence un peu mentalement. Ici, c'est ce que je disais un peu à mes auditeurs la semaine dernière, ça nous pend tellement au nez, tu sais, c'est oui. Étonnant que ça soit une grande surprise, même pour nous aussi. Tu dis, nous, on a été un peu pris par surprise quand même pour le nombre de jours, tu sais, mais je pense qu'il y a une question de, on veut éviter la cohue. En même temps, si tu donnes seulement 2 jours, c'est sûr que tu en crées une parce que les gens vont se garrocher.
Oui.
Donc, nous, en théorie, on en discute aujourd'hui. Ça devrait être confirmé demain et rentrer en vigueur probablement jeudi. Donc,
ouais. Ben oui, on s'y attendait. Moi aussi, je m'y attendais. Après, on est toujours plus inquiet finalement pour les écoles. Ouais. Alors oui, là, bon, il devait finir vendredi. Les miens, il devait reprendre le 4 janvier, ce qui n'est pas le cas de toute l'Allemagne. Certains Landes en Allemagne ont vraiment 3 semaines, donc reprennent le 11 janvier. Mm-hmm. Ça dépend des régions. Moi, ils devaient reprendre le 4. Après.
Mais là, ils ne reprennent pas, là, probablement, tes enfants, puisque non. Le confinement, c'est à partir de ce mercredi chez vous jusqu'au 10 janvier.
Ouais. Donc, c'est plus l'école à chaque fois qui inquiète
pour
nous, parce qu'on se dit, est-ce que ça va être prolongé après le 10 janvier? Donc, ça aussi, c'est une autre question. Si les chiffres
aussi
ne baissent pas tant que ça,
ouais.
Est-ce qu'on se dit, est-ce que ça va être tout le mois de janvier? Donc voilà, après, Merkel va se réunir au quotidien ou presque, mais début janvier, on devrait savoir si ça continue ou pas.
Ouais, moi, j'ai même entendu.
C'est toujours ça qui est inquiétant.
Toi, même ici, là, j'ai des gens qui, en fin de semaine, commençaient hypothétiquement, qui disaient ça serait pas étonnant que ça soit tout le mois de janvier, là, juste début février, t'imagines. Donc là, moi, je pense qu'il faut se préparer, que ça soit chez vous en Allemagne, Olivia Lévy. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, d'ailleurs. On va continuer de te lire dans la presse. Olivia est journaliste pour la presse en Allemagne.
Hein? Merci.
Merci beaucoup, Olivia. Et chez nous, ben c'est pareil. Là, on est dans l'hypothèse, mais je pense que l'hypothèse va pas mal. Ce scénario allemand là, qu'on appliquerait ici, ça risque d'être pas mal ça qui va nous être annoncé demain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était la chose à faire? Olivia nous dit, tout le monde s'y attendait là-bas. Est-ce qu'on s'y attendait nous aussi, finalement? Est-ce que c'est un peu normal? Écoutez, quasiment 2000 cas hier, 1994. Tu te dis, bon, il faut agir. Là. Il faut faire quelque chose. Angela Merkel a dit, nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant. Donc, c'est pas étonnant qu'on veuille faire pareil chez nous. Tout de suite après, toutefois, ça crée des réactions et l'Association Coiffure Québec va réagir. On va parler à des auditeurs avant de parler au président de l'Association Coiffure Québec. Bonjour, Claire.
Oui, bonjour, Isabelle. Malheureusement, je pense qu'on est rendu là. Puis, je peux vous parler à la dame en Allemagne. Je pense que les Allemands sont beaucoup plus disciplinés que nous. Je trouve qu'on est un petit peu délinquants. Et puis, je pense que dans les écoles aussi, il y a eu propagation probablement de la contamination avec les étudiants là. Et puis, je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent prendre ça au sérieux quand les parents le prennent plus ou moins au sérieux? Vous savez, l'exemple, c'est important hein, dans une famille. Hein?
Tellement.
Alors, on est rendu, où est-ce que c'est qu'on est rendu? Malheureusement, je pense que peut-être que les endroits où est-ce que les portes soient à l'extérieur, ça serait peut-être plus facile que dans des gros centres d'achat.
Ouais.
Alors, je pense qu'on est rendu là. Puis, si on est rendu là, mais on peut dire que c'est notre faute.
Merci, Claire. Merci beaucoup. Carl, bonjour. Votre opinion là-dessus, Carl?
Bonjour. Moi, je vous dirais, j'ai mon expérience professionnelle qui est en Chine. Et présentement, l'économie chinoise est en pleine expansion. Puis la manière qu'ils gèrent ça, c'est qu'aussitôt qu'il y a pas plus que moins de 10 cas par ville, puis moi, je voudrais, comme la ville de Shanghai, qui a 34 millions de personnes, 34 ou 35 millions, qui est encore plus grand que le Canada, ils font un lockdown, mais très sévère. Tout est fermé pendant 2 semaines. Et ils gèrent ça ville par ville, secteur par secteur. Et là, présentement, depuis 3 semaines, 1 mois, l'économie est en plein essor. Je vais recommencer à travailler là-bas. Pas là-bas, mais d'une manière virtuelle.
Oui,
et je vous dirais, c'est sûr qu'on ne peut pas appliquer la même chose en Chine qu'ici, parce qu'on n'a pas le même régime, on n'a pas la même mentalité. Puis bon, on est dans des extrêmes. C'est un pays qui est communiste.
Mais oui, clairement.
La seule chose, c'est que c'est efficace.
Voilà. Merci.
Le Japon est similaire aussi.
Ouais. Merci, Carl, pour ce point. C'est intéressant toujours de voir ce qui se passe ailleurs, d'ailleurs. Stéphane Roy est président de l'association Coiffure Québec. Bonjour, Monsieur Roy.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va. Et vous, parce que dans votre industrie, là, c'est à nouveau ce qui nous pend au nez, ben, c'est une autre fermeture des commerces, dont, si on se fie au modèle allemand, les coiffeurs. Là-bas, ils ne sont pas contents.
Exact.
Chez vous, comment ça se passe, là?
Nous, c'est quand même assez divisé avec nos membres, puis sur les réseaux sociaux, il y a un groupe qui... Mais la plupart ne sont pas contre une fermeture. On est des citoyens avant tout, là.
Ouais.
Sont pas contre une fermeture si c'est jugé nécessaire. Puis nous, on remet pas en question le jugement des gouvernements. Mais c'est quand même divisé dans le sens que il y a sur les réseaux sociaux, beaucoup de coiffeurs qui disent communiquer avec leur clientèle pour devancer les rendez-vous. Puis il y a un autre groupe qui sont, eux, contre ce phénomène-là et qui disent, bon, on doit pas appeler nos clients parce que, dans le fond, c'est un déplacement de clientèle, c'est un déplacement du problème. Donc, c'est divisé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Puis, nous, peu importe la décision, qu'est-ce qui nous fait peur ici aujourd'hui ou demain, ils annoncent la fermeture des salons, mais en date du 20 décembre, mais là, ça va créer un petit chaos parce que là, les gens qui ont des rendez-vous entre le 20 et le 24, ils vont vouloir se faire squeezer entre 2 rendez-vous ou peut-être certains salons vont allonger leurs heures d'ouverture. On a de la difficulté à mesurer les conséquences positives là, d'une annonce comme ça. Mais en même temps, on comprend le gouvernement. Donc, c'est possible.
Vous dites à partir du dimanche 20 décembre et non pas du jeudi 17. Vous le tenez d'où, cette date-là, du 20 décembre?
Bien, nous, c'est des rumeurs parce que les coiffeurs ont souvent à coiffer des gens qui ont des positions au gouvernement. Puis il y a des rumeurs qui parlent du 17, puis il y a des rumeurs qui parlent du 20. Nous, on n'a pas la décision finale, mais déjà, si demain ils annoncent la fermeture le 17 ou le 18, ça va quand même créer un déplacement de clientèle. La plupart des coiffeurs, où est-ce que c'est unanime, c'est s'il y avait fermeture le 24 au soir, de fermer 2 ou 3 semaines, ça c'est quasiment unanime. Tout le monde est d'accord avec ça pour les coiffeurs du Québec, mais c'est, par contre, tout ce qui est division, c'est est-ce que c'est bon de fermer avant Noël? Mais en même temps, si on parle aux professionnels,
c'est ça.
Si on parle aux professionnels de la santé, eux, je pense que la décision va être facile. Ils vont dire le plus vite que ça va se passer, mieux que c'est pour le Québec.
Et au diable, la repousse.
Exactement. C'est ça. C'est pour ça que nous, on veut pas commencer à dire au gouvernement comment faire les choses. Ils ont plus d'informations que nous. Mais sauf que la façon que ça va être fait, ça a un impact différent. Si annonce demain la fermeture, mais que la fermeture le délai est court entre l'annonce et la fermeture, ça c'est plus efficace que si on nous annonce que dans 4-5 jours il va y avoir fermeture. Mais les coiffeurs sont pas d'accord avec ce que je vous dis là. Eux, ils veulent le savoir d'avance, puis ils veulent pas le savoir à dernière minute là. Moi, ma femme est coiffeuse, puis il y a une relation avec leurs clients, c'est des gens de cœur. Ils veulent pas décevoir le client, puis les clientes qui sont souvent les préférés des coiffeurs ont leur rendez-vous le 23 et le 24 décembre.
Ben ouais.
C'est ce que les coiffeurs vont vivre, mais les médecins, eux, ils ont sûrement pas la même analyse que nous, là. On n'est On est réaliste.
Dans ce cas-ci, on pourrait dire que tout ce qui est travailleurs de la santé risque d'avoir la mèche un peu plus courte.
C'est ça, la mèche est plus courte. Mais nous, on se considère pas comme les boutiques, les commerces de détail, parce que nous, on a le contrôle sur notre clientèle. On a souvent leur nom, leur numéro de téléphone, puis il y a une relation entre le client et le coiffeur. Donc, dans les salons, présentement, ça se passe quand même bien. Il n'y a pas eu de cas depuis la réouverture des salons. On a mis des...
Ah, vous avez le masque, vous avez la visière, les lunettes. C'est vraiment, vraiment... Il y a la distanciation. Je pense que vous avez tout fait également dans votre industrie pour que ça soit le plus...
pour que ça se passe bien, puis voilà, le résultat est là. Le résultat est là. Sauf que si le gouvernement juge que il y a un déplacement, ils veulent éliminer les déplacements dans le fond de la population... Ben là, c'est eux qui ont les informations.
Mais vous savez pourquoi, M. Roy? Il y a toujours une frange de la population qui n'écoute pas. Là, j'ai toutes sorti mes blagues de coiffure. J'essaie de vous faire sourire. Parce
vous êtes bonne quand même.
Oui.
Nous, on est rendus au bout de notre rouleau, nous.
Ah, c'est bon. C'est bon aussi, oui.
Ouais. Ah, bon. Puis moi, c'est ça. Fait que on espère, puis les coiffeurs, c'est des gens de cœur, puis ils veulent pas déplaire, mais en même temps, nous, on va appuyer le gouvernement, puis on va pas faire nos gérants d'estrade et critiquer suite aux décisions.
Voilà.
On va encourager les... Exactement.
Ben merci beaucoup, Stéphane Auroi.
Merci à vous.
Merci bien. On a Joanne avec nous. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Isabelle. Moi, c'est sûr que je suis d'accord que ce soit un reconfinement parce que les gens ont l'air à écouter très bien. Et puis, pour ce qui est des magasins au détail, ben nous, on a une petite boutique. C'est sûr que c'est injuste, c'est Walmart et Costco. Par contre, le dernier confinement, ma soeur, son frigidaire l'a brisé, fait qu'elle s'est retrouvée avec pas rien. Il faut penser que fait qu'elle était bien contente que Costco, Walmart soit ouvert. Il faut penser à quand il arrive des choses comme ça, que si on n'a rien, c'est soit qu'ils rouvrent tout ou soit qu'ils ferment tout, mais si on n'a rien, ça vient vraiment...
C'est possible, oui. Ouais. En même temps, ça peut être pour une plus courte période de temps. Il y a des théories, puis là-dessus, on va parler avec le président de l'Association des microbiologistes du Québec après la pause, mais ce que nous disait Carl, qui nous appelait tout à l'heure, qui travaille avec la Chine, c'est que dès que tu as une éclosion, ils ferment tout de suite, puis c'est la mesure drastique sur le champ, 14 jours de quarantaine, puis après ça, on peut fonctionner quand même plus rapidement. Il y a toutes sortes de théories, puis c'est là où je pense que personne qu'à la science infuse non plus. Là, je pense que on le vit à mesure. On devrait quand même espérer que les experts en sachent plus que le citoyen moyen là-dessus, mais c'est sûr qu'on est encore beaucoup dans les erreurs. Merci beaucoup, Louise. On va aller... est-ce qu'on parle à Louise maintenant? Alors, c'est Louise de maintenant. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Moi, je suis pas d'accord avec la fermeture des commerces et des magasins. Ils ont déjà assez de problèmes en ce moment pour survivre. Je pense qu'on a mis des mesures en place. Le gouvernement a mis plusieurs mesures en place. On regarde les points culminants des
éclosions.
Des éclosions, et je vous dirais que on regarde, puis on est revenu à cause de départ où c'est nos gens dans des CHSLD, des gens qui sont et les travailleurs de la santé. Je vous dirais que la masse de la population s'en tire quand même assez bien. Et puis, je pense que c'est difficile. Les gouvernements ont mis des mesures déjà draconiennes pour tous nos commerçants, pour tous nos gens qui travaillent dur, qui ont bâti des commerces. Puis, je pense que ces mesures-là sont efficaces jusqu'à un certain point et qu'un shutdown complet, c'est terrible pour eux autres. Mmh. C'est terrible. Puis je pense qu'on va payer la facture très cher à un moment donné. On va perdre nos gens, on va perdre nos commerçants, on va perdre des petites business. Ouais. Puis on va avoir des gens qui vont travailler, je vous dirais, en dessous dans au noir, là, pour essayer de survivre, pour essayer de compléter ce qu'ils sont pas capables de faire. Puis je vous dirais que je connais déjà des coiffeurs et des coiffeuses qui se déplacent puis qui vont chez leurs clients, OK, leur couper les cheveux.
Oui, oui, c'est ça.
Et c'est là que, moi, je pense qu'on est en train de créer un monde complètement perdu. Puis je vous dirais que en plus de ça, c'est qu'on on fait de la propagande pour la dénonciation, et je trouve ça terrible. On va rester avec des séquelles épouvantables de ça.
Merci, Louise. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, on parle à Christian Jacob, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Vous pouvez nous appeler toujours, bien sûr, au 514-790-9850, 1-866-790-9850 pour nous joindre de l'extérieur, un peu partout au Québec. À tout de suite, tout le monde. Christian Jacob est avec nous. Il est microbiologiste, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Bon, là, on revient, tout à l'heure, quelqu'un disait on revient à la case départ. C'est presque ça, puisqu'on parle à nouveau d'un reconfinement partiel dans la mesure où il y aura quand même certains commerces d'ouverts, mais la plupart risquent d'être fermés. Tout ce qui n'est pas essentiel, ça va être fermé. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu au mois de mars. Ça serait quoi la différence de ce que vous comprenez, vous, Christian?
Ben la différence, c'est qu'on a quand même plusieurs mois d'hiver à venir encore. C'est sûr qu'il y a le vaccin qui s'en vient, mais la pandémie va pas se terminer de façon magique en janvier, ni même en février. Là, des personnes comme moi, là, je pense pas être vaccinée avant mai, si on est chanceux, probablement plus juin. Ouais. Donc, on a quand même plusieurs mois devant nous à affronter et où on doit continuer à avoir un certain contrôle sur la propagation du virus. Puis en ce moment, on semble pas avoir un bon contrôle sur cette propagation-là. Le nombre de cas continue d'augmenter de jour en jour. Puis c'est pas des mois faciles qui s'en viennent.
Et pourtant, on a plus de mesures sévères qu'on en avait cet été, Christian Jacob. Donc, c'est quand même étonnant. Hier, on avait 1994 cas. C'est un des chiffres les plus élevés, sinon le plus élevé. Là, on s'approche du 2000. Il y a quelques semaines, on nous disait que l'objectif, c'était 1000. Peu de jours après, les chiffres étaient complètement... ça partait en vrille. Là, on est plus près du 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont émises, mais aucune semble véritablement viable. Vous, comme microbiologiste, vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un lien avec le virus comme tel ou c'est vraiment une question comportementale de la part des humains?
Ben, c'est les conditions, c'est l'environnement. C'est pas surprenant de voir plus d'éclosions, plus de propagation en hiver. On le voit naturellement avec le rhume, avec le virus de la grippe normalement. C'est sûr que le retour à l'école a beaucoup à jouer là-dedans. La dernière fois qu'on s'est parlé, on se disait qu'on aimerait donc savoir les chiffres du pourcentage d'éclosions par milieu d'éclosion. On les a maintenant. Là, on parle d'à peu près le quart des cas qui prendraient origine dans les écoles, à peu près 5% dans les garderies. Donc, on a 30% des cas qui proviennent de ces milieux-là, qui sont pas des milieux où il y a de la transmission durant l'été. C'est sûr qu'il y a quand même des contacts entre les enfants durant l'été, là, mais souvent à l'extérieur, puis dans des conditions moins propices à la transmission de ces infections-là. Donc, on a une partie de la réponse, certainement, là, qui se trouve dans ces statistiques-là.
Est-ce que ça a été... trop jovialiste. J'allais dire, est-ce que ça a été une erreur, mais disons, est-ce que ça a été trop optimiste de la part du gouvernement de dire on va quand même rouvrir les écoles, permettre aux élèves du primaire, par exemple, d'être là en présentiel, en ayant malgré tout ces mesures, mais on sait très bien que les bulles, il y a eu tellement eu de témoignages de parents qui disaient que les bulles étaient éclatées à l'école parce que ne serait-ce qu'au service de garde, ça tenait plus. Là. Il y avait soudainement plein d'enfants qui venaient de plein de classes différentes. Fait que même si ta bulle était respectée dans ta classe, à la fin de la journée, tu allais mélanger ta bulle avec celle des autres. Donc, est-ce que ça n'a pas été finalement un élan trop optimiste de la part du gouvernement de dire on va contrôler l'école quand vous dites que finalement 30% des cas viennent de tous ces milieux scolaires ou éducatifs?
Ben, possiblement qu'on a été trop optimiste. Je comprends que le gouvernement veut avoir le moins d'impact possible sur les enfants. C'est quand même notre avenir. Il y a, dans quelques pays, on parle de générations sacrifiées, là, des jeunes qui vont avoir vécu cette pandémie-là. Bon, le terme est peut-être un peu fort, mais reste que toute cette situation-là va avoir un impact, je pense, profond sur ces enfants-là, puis de vouloir le moins possible influencer négativement leur développement, je pense que c'est louable. Possiblement qu'on en paye un prix là, de vouloir justement avoir le moins d'impact possible, mais je comprends très bien la démarche du gouvernement d'avoir voulu agir ainsi.
Est-ce qu'elle arrive pas trop tard? Excusez-moi, Christian, est-ce qu'elle arrive pas trop tard, cette démarche? Est-ce que ça aurait pas dû être notre conversation de ce matin? Est-ce qu'on n'aurait pas dû l'avoir il y a deux semaines? Je pense qu'on l'a eu d'ailleurs, mais bon.
D'avoir fermé les écoles?
Tous les magasins. Ce qu'on risque de voir arriver le jeudi, annoncé demain, pourquoi on ne l'a pas fait il y a deux semaines?
C'est sûr que ça aurait eu un impact plus tôt, puis qu'on aurait peut-être eu une croissance. Bien là, on commencerait dans la semaine prochaine à peut-être voir l'effet de ce confinement-là si on l'avait fait. Ça aurait fait mal de toute façon. Reste que c'est la période où les gens vont dans les commerces, puis c'est là que les commerçants font leur année aussi. Donc,
il n'y a pas de solution idéale, c'est ça que vous dites?
Oui, c'est ça. Il faut garder en tête qu'il n'y en a pas de bonne solution. Il y en a des moins pires. On a vu tous les scénarios dans tous les pays, de la solution chinoise qui est extrêmement efficace, mais que je ne suis pas sûr qu'on serait capable d'appliquer ici pour aller jusqu'à la solution suédoise qui est plus laxiste. Mais,
merci. Merci beaucoup, Christian Jacob. On doit sortir ici.